Bienvenue sur les podcasts de Profession Banlieue, le centre de ressources de la politique de la ville de la Seine-Saint-Denis. Nous vous proposons dans cet épisode un décryptage sur les ségrégations et les inégalités sociales de santé en territoire populaire. Ce podcast est issu d'une matinée organisée le 16 juin 2022 à partir des interventions de Laure Pitty et Audrey Mariette, toutes deux maîtresses de conférences à l'Université Paris 8 et chercheuses au Centre de recherche sociologique et politique de Paris. Elles ont notamment coécrit une étude sur la pandémie du Covid-19 en Seine-Saint-Denis, dont vous trouverez les références dans la présentation liée à ce podcast. Bonne écoute!
Merci beaucoup de cette proposition d'intervention. Je trouve que voilà, la partie brise-glace, ça permet de... c'est vraiment utile, et puis les post-it ça permet d'anticiper des échanges qui vont être riches. Donc on va intervenir aujourd'hui sur que fait la ville à la santé, ségrégation et inégalité sociale de santé en territoire populaire. Donc en France, l'action publique a longtemps distingué d'un côté les inégalités sociales et de l'autre les inégalités territoriales de santé. Hein. On se réfère notamment aux travaux d'Emmanuel Vigneron. Pourtant, la spatialisation des inégalités sociales de santé est un élément central en sociologie pour comprendre les effets de la ségrégation urbaine sur la santé et aussi le rôle des politiques locales en matière de santé. Alors aujourd'hui, on va partir du cas de la Seine-Saint-Denis, donc ça tombe bien, on est plusieurs à y vivre, y travailler. Donc département le plus pauvre de la France hexagonale, qui est régulièrement stigmatisé comme l'archétype, hein, entre guillemets, des banlieues à problème, et dont la population a particulièrement et très durement été touchée par la crise sanitaire. Donc c'est un peu par l'entrée de l'épidémie Covid-19 qu'on va traiter de questions beaucoup plus larges et beaucoup plus anciennes en réalité. Pour commencer, une précision et en termes de définition, hein, de ce qu'on entend par inégalité sociale de santé, parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup et qu'on a beaucoup entendu avec la crise, mais c'est toujours utile de revenir sur des définitions, en tout cas ici telles qu'on les aborde et qu'on propose de les aborder depuis notre position de sociologue. Alors pour reprendre la définition de l'OMS, qu'on retrouve d'ailleurs sur les post-it, qui est fortement mobilisée par les acteurs locaux de la santé en quartier populaire, la santé ne se réduit pas à l'absence de maladies, et c'est pas le simple résultat, hein, d'un patrimoine génétique. C'est aussi du social incorporé, et ça inclut donc les dimensions à la fois physiques et mentales. Donc, sans centrer l'intervention sur la santé mentale, de fait, c'est important de le rappeler. Ces inégalités sociales de santé, elles sont loin d'être biologiques et elles sont aussi le reflet d'autres inégalités sociales structurelles. Et du coup, on propose d'adopter une définition du social qui ne se réduit pas seulement à la catégorie socio-professionnelle ou à la classe sociale des individus, des habitants de ces quartiers populaires, mais aussi, hein, d'inclure le sexe, le genre, l'âge, la génération, les trajectoires et ascendances migratoires, l'orientation sexuelle, etc. D'avoir une définition large de ces inégalités sociales de santé. Et si ce terme, il fait consensus, hein, c'est un terme qu'on retrouve dans l'action publique, qu'on retrouve en sociologie, qu'on retrouve dans les associations, l'idée, c'est d'aborder ces inégalités sociales de santé à l'aune des rapports de domination, à savoir des rapports sociaux de classe, de sexe, de race, de génération, qui structurent et qui hiérarchisent l'espace social. Et donc, de ce point de vue, les pensées sous l'angle de rapport de domination, bah, ça permet, en gros, de pas seulement se centrer sur les patients et les patientes, mais aussi d'inclure les autres acteurs de la santé et d'inclure le rôle des pratiques discriminatoires dans la reproduction et la continuité, hein, la perpétuité de ces inégalités sociales de santé. Nous, on a travaillé sur les quartiers et plus largement ce qu'on appelle les territoires populaires. Alors, une petite précision, on propose de distinguer quartiers populaires des quartiers labellisés comme QPV, donc prioritaire de la politique dite de la ville en France. On l'a vu avec la réforme de 2014, et puis là, ça a été évoqué à propos de la question des déserts médicaux. En fait, il y a une évolution qui peut être arbitraire des frontières de ces quartiers prioritaires, qui est liée à la définition qu'on en retient et qui est retenu par les acteurs de l'action publique. Et ça nous semble intéressant à la fois de les mobiliser et de mobiliser les indicateurs qui sont produits à partir de ces QPV par l'action publique, mais aussi de les mettre un peu à distance juste pour les questionner et pour ne pas les homogénéiser. De fait, hein, les quartiers prioritaires politiques de la ville ne sont pas hétérogènes. Et il y a certains dispositifs qui visent et dont l'objectif est de réduire ces inégalités qui peuvent être appropriées de manière différenciée en fonction des habitants qui occupent ce territoire, qui ne sont pas tous de classe populaire. Donc, du coup, on va retenir, pour définir ces quartiers populaires, l'idée que ce sont des espaces où les habitants sont majoritairement membres de classes populaires, donc employés et ouvriers, et où les conditions de travail, de vie et l'habitat sont particulièrement précaires. Dernier point pour présenter du coup les questions qui vont être au cœur de notre intervention, à savoir donc pourquoi et comment le cumul d'inégalités en territoire populaire urbain a des effets sur la santé, mais aussi quel rôle joue le système et les politiques de santé dans ces espaces urbains souvent relégués. Est-ce que ce système et ces politiques peuvent corriger les inégalités et comment, ou est-ce que au contraire elles contribuent à les renforcer? Donc c'est l'entrée qu'on va retenir, sachant que l'idée c'est aussi de prendre en compte dans nos enquêtes des acteurs publics mais aussi privés qui tentent de lutter de différentes manières et à l'échelle locale contre ces inégalités sociales de santé. De ce point de vue-là, la crise sanitaire, elle a fonctionné comme un révélateur mais aussi comme un amplificateur des transformations à la fois des inégalités sociales de santé, mais aussi des transformations des politiques de santé, en particulier de ce que Didier Fassin appelle les figures urbaines de ces politiques. Et ces transformations, elles s'inscrivent dans un processus plus large, dit de territorialisation de l'action publique, qui a été accru ces deux dernières décennies. Et là aussi, le territoire est devenu une catégorie d'action publique, particulièrement et encore plus fortement depuis la fin des années 2000 et depuis la loi HPST de 2009, avec la création des ARS, mais aussi la relance des ASV, des ateliers santé-ville, jusqu'aux réformes les plus récentes et aux projets de réformes dont on pourra parler si vous le souhaitez. Donc du coup, cette catégorie aussi, ça peut être utile de territoire, ça peut être utile de la questionner pour voir aussi comment ce mouvement de territorialisation décidé et annoncé à l'échelle nationale, y croise aussi des dynamiques locales avec des logiques et des politiques à l'échelle des villes notamment, qui sont antérieures à cette dynamique de territorialisation et parfois créent des conflits, des tensions pour les acteurs de ces politiques. Et de fait, on voit aussi que cette politique dite de territorialisation, elle s'accompagne d'un développement de financement par projet de l'action publique, avec un développement d'une segmentation de l'action publique par quartier, par thématique, par public cible, qui peut là aussi générer des tensions. Alors, en partant de l'épidémie de Covid-19, l'idée, ça va être de questionner les rapports entre ville et inégalité à partir des enjeux de santé, des politiques locales, comme je l'ai dit. Mais notre propos, il s'inscrit aussi plus largement dans une réflexion sur ce que les marges urbaines disent de la politisation des enjeux de santé et de la manière de politiser ces questions de santé et des rapports de domination qui s'y jouent. Quelques éléments sur les enquêtes qu'on a réalisées et sur lesquels on s'appuie dans le cadre de cette communication. Tout d'abord, le programme Pop Santé qu'on a réalisé, Laure Pitty et moi, entre 2012 et 2017, donc avant la crise sanitaire, et qui visait à interroger ce que les territoires populaires font aux politiques et aux professionnels et aux pratiques de santé, en partant du cas d'une ville, une ville communiste de longue date, située donc en Seine-Saint-Denis. Alors c'est une commune de plus de 100 000 habitants qui se caractérise par une population majoritairement de classe populaire avec une proportion élevée d'étrangers et d'immigrés. Les inégalités sociales de santé sur cette commune, comme au sein du département, sont particulièrement fortes, mais l'offre publique de soins à l'échelle de cette commune est relativement développée comparativement à d'autres communes puisqu'elle dispose d'un hôpital et de plusieurs centres de santé municipaux auxquels s'ajoute une offre de santé privée lucrative avec des cabinets médicaux libéraux, des cliniques, des centres de santé privés non lucrative avec deux centres de santé associatifs. Alors ce type de configuration locale, il est relativement marginal hein, à l'échelle de la France entière, puisqu'il associe des structures classiques, hôpital et cabinets libéraux, et des structures alternatives d'offres de soins et de prise en charge, avec ces centres de santé municipaux ou associatifs qui disposent donc de médecins salariés, comme on le disait tout à l'heure. Mais néanmoins, ce type de configuration, on le retrouve quand même dans plusieurs communes, souvent populaires, et des communes où les politiques de santé publique sont souvent anciennes et où on trouve de nombreuses initiatives locales. Et de fait, ces marges, elles permettent, ces cas marginaux permettent d'éclairer le fait que le système de santé français reste largement hospitalo-centré et structuré hein, par une dichotomie public-privée. Alors dans le cadre de la recherche, on s'est focalisé plus particulièrement sur les professionnels de santé et en leur sein les médecins généraux pour le volet porté par Laure, et sur les politiques locales en regardant des acteurs hein, qui portent ces politiques et qui visent et qui ont pour objectif donc de réduire les inégalités sociales de santé au-delà du cadre de leur travail. Cette enquête, on l'a revisitée au moment de la crise avec une recherche documentaire et la réalisation d'une base de données collaborative sur la première vague de l'épidémie en Seine-Saint-Denis pour comparer la Seine-Saint-Denis à d'autres départements. Alors on s'appuie également sur le programme, et donc là c'est l'enquête menée par Laure et qui est en cours, sur le programme Exoque 2 de l'IRDES, donc 2020-2021, qui est coordonné par Cécile Fournier, qui est donc une recherche sociologique sur l'exercice coordonné en soins primaires face à l'épidémie de Covid-19. J'en arrive donc à annoncer l'organisation en deux parties. On va revenir donc à partir de l'épidémie dans les quartiers populaires des villes sur ce que la ville fait à la santé, puis sur ce que la santé fait à la ville. Pour le dire autrement, on va revenir sur la manière dont les inégalités sociales ont des effets sur la santé, les inégalités urbaines ont des effets sur la santé, et dans un deuxième temps, sur la manière dont le système français de santé va renforcer ces inégalités, en particulier dans ses marges urbaines. Alors, premier point, on va partir de la première vague de l'épidémie hein, qui a touché la Seine-Saint-Denis durant la deuxième quinzaine de mars 2020, juste après la décision de confiner la France qui a été prise et annoncée le 16 mars. Et très vite, dans cette deuxième partie du mois de mars, les chiffres qui sont donnés par l'INSEE sont très alarmants. Donc on a des grands quotidiens nationaux qui titrent sur la surmortalité inquiétante en Seine-Saint-Denis. Les données de l'INSEE, qui ont été mises à jour, on a eu une première vague de données sur laquelle on s'est basé pour le graphe au-dessus sur la surmortalité en Seine-Saint-Denis et dans les autres départements français entre le 1er et le 20 avril, où la Seine-Saint-Denis, qui est en noir là sur le graphe, est juste après le Haut-Rhin. Mais en fait, quand on actualise les données et qu'on va jusqu'au 30 avril, la Seine-Saint-Denis remonte au-dessus du Haut-Rhin. Donc plus 124% au niveau de la surmortalité par rapport à la même période l'année précédente, donc l'année 2019. Mais ce qui interpelle, c'est le fait que la population en Seine-Saint-Denis est particulièrement jeune. On a 9 habitants sur 10 qui ont moins de 65 ans. C'est 8 sur 10 dans le Haut-Rhin, qui a pourtant été aussi donc, un épicentre de l'épidémie, et même le premier. Donc, pour le dire autrement, le Covid-19 a tué davantage en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs sur cette période, mais il a aussi touché une population plus jeune qu'ailleurs, puisque le taux de surmortalité des moins de 65 ans est le plus élevé sur la France entière. Donc, c'est le graphe qui est sur la droite. De plus, et c'est ce que permet d'objectiver, de montrer ces deux cartes qui ont été publiées par l'ORS, l'Observatoire Régional de Santé, en juin 2020, les territoires les plus populaires au sein de la Seine-Saint-Denis, donc au sein même du département, ont été beaucoup plus touchés. Donc les quartiers les plus populaires ont été plus touchés par cette surmortalité. Alors, ça nous permet d'arriver au deuxième point de cette première partie sur comment expliquer hein, cette énigme apparente. Et de fait, c'est en regardant le cumul d'inégalités socio-spatiales antérieures à l'épidémie qu'on peut comprendre la force de l'épidémie dans la Seine-Saint-Denis. En effet, on est dans un département où les classes populaires urbaines, pour beaucoup immigrées ou descendantes d'immigrés, ont été plus exposées et donc plus touchées par l'épidémie en raison de leurs conditions de vie, de leurs conditions de travail, conditions de logement, mais aussi et aussi de leur état de santé plus dégradé qu'ailleurs. Juste pour donner un peu quelques éléments et données d'objectivation, on a des travailleurs et des travailleuses en position subalterne, c'est-à-dire dans des emplois d'ouvriers et d'employés, mais particulièrement des emplois de service, donc qui les mettaient plus au contact des publics, et qui ont aussi pour caractéristique en temps normal, c'est-à-dire avant l'épidémie, de prendre plus les transports en commun que les autres. C'est 52,7% des salariés du département qui prennent les transports publics pour aller travailler. Et pendant l'épidémie, ce sont aussi eux qui ont continué de les prendre, plus que les autres, puisque ils et elles sont et ont été présentés comme des travailleurs et des travailleuses clés. C'est un actif sur 8 qui est un travailleur ou une travailleuse indispensable au sein de la Seine-Saint-Denis contre 1 sur 14 à Paris, pour donner une comparaison. Donc au-delà de cette question du travail, on a aussi les conditions de logement qui sont plus dégradées qu'ailleurs et qui ont joué sur l'épidémie, les chiffres de surmortalité, à savoir qu'en Seine-Saint-Denis, on a un taux de logement suroccupé très élevé, alors un peu moins qu'à Paris, mais de fait c'est un des taux les plus élevés dans la France hexagonale, puisque plus d'un logement sur 4, il manque au moins une pièce par rapport à la norme d'occupation normale fondée sur le nombre de pièces nécessaires au ménage d'après la définition donnée par l'INSEE. Et donc cette situation en termes de logement a des effets puisqu'il était compliqué, voire impossible, de s'isoler en cas de contamination d'un des membres du foyer. Il y a aussi un taux de logement insalubre particulièrement élevé en Seine-Saint-Denis qui joue sur l'état de santé. Et de fait, c'est le troisième point, les états de santé sont plus dégradés qu'ailleurs et ont été des facteurs de comorbidité importantes sur cette première vague de l'épidémie. Et puis après, en effet, les maladies chroniques, comme les maladies cardiovasculaires, respiratoires, l'obésité également, touche plus fortement qu'ailleurs les habitants de la Seine-Saint-Denis. Donc ici, on a mis le graphe à droite de taux de prévalence du diabète par département. Et donc la Seine-Saint-Denis est en premier pour la France hexagonale, puisque figure au-dessus la Réunion et la Guadeloupe. Et on a rappelé dans le graphe de gauche la proportion d'immigrés dans la population du département, enfin par département, où la Seine-Saint-Denis est là aussi en tête, puisque de fait ces maladies chroniques touchent particulièrement ces populations immigrées. Ces constats qui ont pu être rappelés pendant l'épidémie participent à expliquer la surmortalité en Seine-Saint-Denis particulièrement forte, mais c'est aussi les mesures qui ont été prises à ce moment-là qui ont participé à accentuer ces inégalités. Je l'ai dit tout à l'heure, le confinement a été une mesure unique pour l'ensemble du territoire, alors que on a des situations différentes en fonction des départements. Et donc le confinement, il a aussi participé à augmenter la pauvreté, puisque les travailleurs et travailleuses clés, enfin au-delà de la question des travailleurs et des travailleuses clés, on a aussi eu beaucoup de pertes d'emplois et de chômage partiel subi, donc une perte de revenus pour les habitants. La fermeture des écoles et des cantines a aussi eu des effets différenciés en fonction des groupes sociaux. Donc ça a pesé sur les relations intrafamiliales, sur le suivi scolaire des enfants à domicile, mais aussi sur l'alimentation des enfants. Et ça a participé à augmenter, on le voit aujourd'hui, le taux d'obésité. Alors on a des enquêtes en cours, comme l'enquête EPICOV, qui documente de manière fine ces processus. Mais ces mesures politiques face à la crise, elles ont aussi participer à renforcer les discriminations envers la population et les habitants racisés de la Seine-Saint-Denis. Donc on a vu, on l'a vu dans le traitement journalistique du non-respect du confinement dans les quartiers populaires de la Seine-Saint-Denis, qui en a accru l'image déviante. Ça participe à augmenter les logiques de stigmatisation, dont on va voir que ça a des effets sur la santé. Autre élément important au-delà du traitement journalistique, pardon, c'est la question des contrôles de police qui ont été plus nombreux dans ce département qu'ailleurs, plus du double de la moyenne nationale, avec un taux de verbalisation 3 fois plus élevé que la moyenne nationale. Donc on a mis ici un Amnesty International qui a alerté sur cette question-là en disant qu'il n'y avait aucun argument apporté à cette différence de traitement. Les mêmes mesures pour tout le territoire, mais quand même un traitement différencié sur cette question des discriminations raciales. Et ces discriminations raciales qui ont été accentuées pendant le premier confinement, elles participent aussi à augmenter les inégalités sociales face à la maladie et à la mort. Pour comprendre ces différences, ici j'avais mis un graphe, j'y reviens pas, mais qui est issu de données de l'INSEE, hein, pour montrer la question des effets, en gros, des effets de ces stigmatisations et de ces discriminations sur la santé et sur l'espérance de vie des étrangers, des immigrés et des descendants d'immigrés. Pour comprendre ces données, il est cependant également central de regarder le rôle du système de santé. Et donc, je passe la parole à Laure.
On en vient au deuxième temps de la présentation, qui rejoint une partie des éléments que vous avez soulignés sur que faire pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Avant d'en arriver au que faire, un diagnostic, c'est justement le rôle de ce système dans la perpétuation de ces inégalités. Puisqu'en France, il est bon de rappeler que le système se caractérise par deux types de canaux classiques d'accès aux soins. Dans un premier temps, la médecine dite de ville ou ambulatoire, d'une part, et l'hôpital, d'autre part. L'hôpital étant, en théorie, chargé de la prise en charge des problématiques sanitaires complexes. On voit aujourd'hui que c'est tout théorique dans le poids que prennent le traitement, notamment social, des populations dans les urgences. Et donc, en théorie, la dichotomie, c'est celle-ci. Une dichotomie ville pour les prises en charge courantes, hôpital pour les prises en charge complexes. Et elle se double d'une dichotomie publique-privée, que vous avez aussi soulignée dans les post-it, puisque la médecine de ville, est historiquement et majoritairement libérale, donc privée, alors que l'hôpital est essentiellement public. Ça aussi, c'est l'histoire du système. Aujourd'hui, c'est en train de très fortement changer. Le caractère libéral de cette médecine joue sur les conditions économiques d'accès aux soins. Et déjà, on croise une première question inégalitaire. Les médecins libéraux sont certes liés par des tarifs de convention avec la sécurité sociale, qui remboursent aux usagers du système de santé le coût des actes conventionnés, mais ne remboursent pas tout dépassement de ce tarif. Et on sait que si en Seine-Saint-Denis, les secteurs 1, comme on appelle les médecins conventionnés, alors que les conventionnés sont aussi de secteur 2, hein, ils sont tous conventionnés. Mais en fait, les conventionnés de secteur 1 sont remboursés, ils sont nombreux, en médecine générale, généralement, dans les spécialités médicales. Là aussi, c'est un peu un abus de langage, puisqu'aujourd'hui, la médecine générale est une spécialité, mais enfin, dans les spécialités autres que la médecine générale, les conventionnés de secteur 1 sont très rares. Et donc, on a d'emblée, pour avoir accès à des soins de spécialité, un dépassement d'honoraires qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale et qui pose la question des complémentaires. Donc là, un rôle du système de protection sociale en lien avec la structuration libérale du système de santé. Autre élément très important, depuis une vingtaine d'années, ce qu'on appelle la démographie médicale, dont on a été amené à discuter au moment du brise-glace, de l'échange sur les post-it. La démographie médicale, c'est-à-dire le nombre de médecins pour une population donnée, généralement de 200 000 habitants, est déclinante, très fortement déclinante, et le caractère libéral de la médecine joue sur l'inégale répartition spatiale des soignants. Il y en a moins, mais ils ne se répartissent pas de manière égalitaire sur le territoire. Donc non seulement il y en a moins, il n'y en a pas assez, mais en plus, ils ne sont pas répartis de manière équitable, la liberté d'installation constituant l'un des principes majeurs de la médecine libérale depuis son texte fondateur de 1927. On est à presque un siècle de médecine libérale. J'insiste sur ce caractère historique parce que ça ne bouge pas beaucoup. En tout cas, c'est en train de bouger partiellement, mais c'est un des éléments qui est particulièrement important. Et donc là, on a une notion aujourd'hui qui s'est diffusée depuis une dizaine d'années, qui est celle de déserts médicaux, qui se généralise même depuis une vingtaine d'années, pardon, pour désigner ces espaces sous-dotés en soignants et soignantes et en ressources sanitaires. Ces déserts médicaux qui ont longtemps été appréhendés comme étant synonymes des espaces ruraux sont depuis quelques années pensés aussi dans les espaces urbains. Et depuis la pandémie, ils sont vraiment beaucoup pensés dans les espaces urbains. Il a fallu la pandémie pour que la question des déserts médicaux urbains vienne dans le débat public. Et donc là, on vous a mis une image sur la circulation active du virus qui rejoint, alors d'une part l'épicentre, mais vous allez le voir, qui touche aussi des zones qui sont au moins en Ile-de-France particulièrement sous-dotées. Donc un désert médical urbain révélé par la pandémie de Covid. On vous a indiqué sur ce graphique trois indicateurs, en gris la France entière, en vert la Moselle, qui est le département le plus rural du Grand Est, et en rouge la Seine-Saint-Denis. Et donc vous voyez que quel que soit l'indicateur, le nombre de lits d'hôpitaux publics en médecine pour 100 000 habitants, le nombre de cardiologues ici délibérément choisis, puisqu'ils étaient, y compris en ambulatoire, donc en ville, particulièrement sollicités pour les maladies cardiovasculaires, qui étaient un critère de comorbidité du Covid, ou qu'il s'agisse du nombre de médecins généralistes en activité régulière pour 100 000 habitants, tous les indicateurs sont au rouge pour la Seine-Saint-Denis, avec des proportions vraiment beaucoup moins importantes que sur l'ensemble du territoire national ou que sous d'autres départements, pourtant appréhendés comme des déserts médicaux, mais pour le coup ruraux. Donc ce que ça montre, c'est que les déserts médicaux urbains aujourd'hui sont dans une situation plus dramatique que certains déserts médicaux ruraux. On pourra faire circuler les chiffres, mais ce qui est important aussi et qui ne figure pas sur ce graphique, c'est d'avoir en tête que la Seine-Saint-Denis est aussi dans une situation de sous-dotation dramatique en termes de lits de réanimation. Il y a 13 lits de réanimation pour 100 000 habitants en Seine-Saint-Denis, il y en a 23 dans les Hauts-de-Seine pour 100 000 habitants, et il y en a 35 à Paris. Alors vous allez me dire 13, 23, 35... C'est très différent, on passe du simple au double, voire au tiers, pour la Seine-Saint-Denis, mais la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine, c'est pas très loin, la Seine-Saint-Denis et Paris, c'est pas très loin, et au moment de la pandémie, il y a eu toute une couverture médiatique de la pratique des transferts de patients sur des territoires beaucoup plus éloignés. Or, dans l'enquête qu'on a pu mener, je vais y revenir dans un deuxième temps, ce qu'on voit, c'est que la question des transferts de patients de la Seine-Saint-Denis, y compris aux hôpitaux des autres départements, a été problématique vu leur saturation. Donc la proximité spatiale de la capitale n'a pas forcément aidé contrecarrer cette sous-dotation. Autre élément qui est particulièrement révélateur, et là vous l'avez pour la médecine générale, sur laquelle on a insisté, et je vais revenir sur pourquoi, parce que le médecin généraliste aujourd'hui est vu comme un pivot du parcours de soins depuis une bonne quinzaine d'années, et un des points d'entrée de la réforme de l'organisation des soins. Ce qu'on voit en Seine-Saint-Denis, c'est que la baisse est ancienne, et elle est beaucoup plus importante que sur la Moselle, par exemple, toujours en vert, ou sur le territoire national. C'est-à-dire que sur la période couverte par l'enquête que nous avons menée, donc on est là sur 2013-2018, mais les chiffres continuent à baisser, on pourrait actualiser le graphique dans une même pente. La baisse du nombre de médecins, enfin de la proportion de médecins généralistes pour 100 000 habitants en Seine-Saint-Denis est plus de deux fois plus élevée que sur l'ensemble du territoire national. Donc il y en a moins et il y en a de moins en moins et plus fortement en déclin, cette démographie médicale, qu'ailleurs. Donc, ce que montre aussi la pandémie et son traitement, c'est qu'on retrouve la même chose sur la question de la vaccination. Donc, on n'a pas donné de graphique, mais ce qu'on voit, c'est qu'en Seine-Saint-Denis, en dépit de l'installation du vaccinodrome au Stade de France, le taux de vaccination en schéma vaccinal complet de la population fin 2021 reste inférieur à celui de l'Île-de-France et inférieur à celui de la France entière. On pourra rentrer dans le détail des chiffres au moment de la discussion. Enfin, ce sur quoi il nous importait d'insister ici, c'est que d'une part, la pandémie a révélé l'effet du cumul d'inégalités, mais accentué ce cumul d'inégalités par l'inégal accès à la vaccination et par le recul des traitements, qu'il s'agisse des traitements des maladies chroniques ou du traitement des cancers, comme peut le documenter en Seine-Saint-Denis le GISCOP, le groupe d'intérêt scientifique sur les cancers d'origine professionnelle qui ont une prévalence très importante en Seine-Saint-Denis. Donc voilà pour le désert médical urbain. Le deuxième point, c'est le fait que les moyens mis en œuvre pour lutter contre ces effets du système de santé qui accentue les inégalités, sont aujourd'hui des moyens qui reposent quand même très fortement sur un système qui reste hospitalo-centré. Pourquoi hospitalo-centré ? Puisque ce qu'on a vu, c'est que depuis une vingtaine d'années, et même un peu plus, je le disais tout à l'heure, le rôle de la médecine générale a été central dans les réformes des politiques de santé. Donc la médecine de ville, comme étant, et le généraliste comme étant le premier point d'accès aux soins. Il y a eu la réforme qui a mis en place le médecin référent en 1997, puis la réforme qui en 2004 a mis en place le médecin traitant et qui instaure donc ce dispositif de prise en charge par l'assurance maladie pour autant qu'on ait un médecin traitant. Et donc on voit bien que ce médecin traitant, c'est un généraliste et donc c'est vraiment la porte d'entrée instituée dans le système de santé. Je reviens sur ces points un peu de jalon chronologique de l'organisation des soins parce qu'ils sont très importants. Et on voit aussi depuis le début des années 2010, comme le soulignait Audrey avec la loi HPST de 2009, une régionalisation de l'organisation du système de santé via la création des agences régionales de santé et de leurs délégations territoriales qui se font donc le relais à l'échelle régionale, départementale, voire locale des orientations de l'État central et avec des incitations fortes à la coordination des soins. Donc c'est plus de centrage sur les médecins généralistes, médecins traitants, qu'on enjoint via les ARS à se coordonner plus fortement. Donc ça, c'est avant la pandémie, c'est un peu l'état des lieux de l'organisation du système de santé. Donc on peut logiquement se dire, l'hôpital va être mobilisé pour les cas critiques, la médecine de ville va être mobilisée pour les cas moins critiques. Or, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Les cabinets libéraux ont majoritairement fermé, faute de ressources, informations, masques, tests, il faut se rappeler que tout ça était très faible au moment de la première vague. Et ce qu'a révélé la pandémie, c'est l'impensé du rôle des médecins généralistes en contexte critique et l'impensé du rôle des acteurs locaux. On va y venir. On vous a mis un extrait d'une soignante qui a été interviewée dans un journal sur le terrain qui était le nôtre. On n'a pas fait une médecine de guerre, on a fait une médecine de pénurie. Et donc, y compris le centrage sur l'hôpital, à un moment fait apparaître l'hôpital comme étant le lieu qui faisait face à la crise. Or, on le sait, et les mouvements de grève de soignants et plus largement de personnel hospitalier ces dernières années l'ont montré, l'hôpital public va mal. Et la pandémie n'y a rien arrangé. Quoi qu'il en soit, ce qu'on a pu voir, c'est que ce qui a été appelé le virage ambulatoire des politiques de santé, à savoir le passage d'un balancier qui ne serait plus simplement centré sur l'hôpital depuis la création des centres hospitaliers universitaires dans les années 60, mais vers la médecine de ville, n'a pas fonctionné. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe, la territorialisation de l'action publique, c'est-à-dire cette organisation plus fortement territoriale des politiques de santé des soins, via notamment les agences régionales de santé, n'a pas non plus très bien fonctionné dans le premier temps de la pandémie. Puisque les enquêtes que j'ai pu mener avec les collègues donc, de l'IRDES dans le programme Execo en Seine-Saint-Denis et ailleurs, les verbatim, comme on dit, les extraits d'entretien que recueillis auprès d'acteurs des territoires, de l'action sociale ou des professionnels de santé, étaient que les ARS sont apparus comme hors sol dans ce premier temps de contexte pandémique, donc je reprends une expression, à savoir pas comme des leviers d'une action territoriale organisée. Ce qui a été mobilisé, c'est le rôle notamment du local, alors qu'il s'agisse des villes, voire des quartiers, et ce sera le dernier temps de cette présentation. À l'échelle donc de l'enquête Execo 2, j'ai pu retravailler sur un quartier prioritaire de la politique de la ville, de la commune sur laquelle Audrey et moi avons enquêté pendant plusieurs années. Et ce qu'on voit dans la première phase de la pandémie, c'est une organisation très locale. C'est même pas à l'échelle d'une ville initialement, c'est à l'échelle d'un quartier, quartier où figure un centre de santé associatif et où figure aussi une pharmacie et où figurent des cabinets libéraux qui ont tous fermé au moment de la première vague. Donc ne reste sur le territoire que local, que ce centre de santé, qui remplit non seulement une mission sanitaire, mais qui remplit aussi une mission de service public, en ceci que tous les organismes publics ont eux aussi fermé. Et donc là, on voit véritablement le rôle de l'organisation et des solidarités locales, qui a pu d'ailleurs être souligné par d'autres que nous, hors question sanitaire. Enfin, là, je pense à l'ouvrage que Jean-François Lahaye a consacré à la solidarité face à la pandémie. Et donc, la continuité des soins repose sur des initiatives locales, d'équipes de soins déjà constituées, qui mettent en place donc un système pour assurer la continuité des soins pour les cas de Covid, d'une part, mais aussi pour les cas non-Covid, puisque les gens n'ont pas cessé d'être malades d'autre chose pendant la pandémie. Donc premier point, un centre de santé, alors qu'il est associatif donc privé, assure une mission de service public dans un contexte pandémique. Deuxième constat, c'est que ce centre de santé en est l'emblème, mais le rôle des acteurs locaux ne repose pas sur les seuls professionnels de santé. Il y a aussi des agents administratifs et administratives, des professionnels de l'action sociale, des acteurs associatifs localement, voire des habitants. Et la solidarité avec des habitants pour les professionnels de santé a joué dans la fabrique notamment de masques initialement totalement artisanale, la fabrique en question, pour voir dans la récupération de masques tombés du camion, comme on a pu le voir dans l'enquête, une petite anecdote, mais qui montre aussi la débrouille pour un pays qui est beaucoup réputé avoir le meilleur système de santé du monde. Et donc cette organisation locale, elle a reposé sur une coordination d'acteurs qui était multiple et qui rejoint ce qui est aujourd'hui beaucoup l'objet d'incitations, c'est-à-dire une coordination pluriprofessionnelle d'acteurs du social et de la santé dans l'action publique. Et le dernier point, cette coordination d'acteurs, elle a reposé sur des usages locaux d'instruments d'action publique, et notamment les fameuses CPTS ou communautés professionnelles territoriales de santé, qui aujourd'hui sont très très fortement encouragées. Donc les communautés professionnelles territoriales de santé sont un regroupement d'acteurs du territoire dans tous les secteurs qui peuvent toucher à la santé, et ça, donc, c'est les collectivités territoriales, l'action sociale, les professionnels de santé, etc. etc. Elles sont en train d'être mises en place de manière un peu plus rapide ces derniers mois. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la pandémie, certaines étaient en préfiguration, et c'était le cas sur le territoire enquêté, à partir de réseaux qui sont issus d'anciens réseaux d'autres temps pandémiques. Et là, je pense en particulier au VIH-Sida. C'est-à-dire que la pandémie des VIH dans les années 80 a surpris beaucoup. Et a remis aussi au centre des médecins généralistes, puisque eux voyaient les patients tout le temps, là où les spécialistes ne les voyaient pas beaucoup, et personne ne savait rien de cette maladie. Et c'est bon de se rappeler d'autres temps pandémiques aussi pour comprendre comment des choses peuvent fonctionner d'une pandémie à l'autre. Et un des instruments de lutte contre la pandémie VIH, ça a été la mise en place de réseaux qui aujourd'hui sont labellisés comme tels dans l'action publique, mais qui se sont mis en place par des initiatives locales d'interrelations entre des soignants de ville et leurs correspondants hospitaliers, comme on dit classiquement dans le jargon médical. Là, ce qu'on voit réactiver dans le temps de la pandémie de Covid, c'est ces réseaux VIH, mais qui étaient initialement des réseaux informels et qui reposent sur des habitudes de travailler ensemble à l'échelle des territoires. Et ça en vient donc à un des éléments centrales qu'on peut tirer de cette enquête au moment du Covid, donc retour sur le terrain, c'est que la coordination ne s'impose pas d'en haut, la coordination s'incarne dans des habitudes de travailler ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en droit de se poser de grosses questions sur l'injonction à la coordination pluriprofessionnelle quand celle-ci ne repose pas sur des habitudes de travail en commun et notamment à l'échelle des territoires. Et peut-être que là, on est dans un moment où le retard, notamment des territoires labellisés QPV en termes donc, de ressources sociales, va peut-être s'inverser en termes d'habitude de travailler ensemble pour des mises en place de coordination locale. Pour conclure, on voulait conclure sur deux points. D'une part, la question de savoir si ce qui se passe à l'issue de la pandémie, on est encore dedans, mais à l'issue de la phase la plus critique de la pandémie, c'est celle de généraliser des pratiques locales dans les marges urbaines, puisque une des conclusions du Ségur de la santé a été l'annonce de la généralisation d'un mode d'organisation des soins jusque-là très marginal, qui sont les centres de santé communautaires. Communautaire, renvoyant à l'organisation de la communauté de vie, donc à l'échelle de quartier. Il y en avait en France 6 avant 2020. Et ce à quoi appelle le Ségur de la santé, c'est à la généralisation de structures d'exercice coordonné participatives. Le terme de communautaire n'a pas été retenu, donc on pourra discuter sur pourquoi. Sous la forme d'une expérimentation donc, qui a débuté au 1er août 2021 et qui vise à l'ouverture à terme de 60 centres de santé participatifs dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Aujourd'hui, l'expérimentation compte 26 structures d'exercice coordonné, dont les 6 centres de santé communautaires historiques dont je parlais à l'instant. Donc, il y a une expérimentation nationale qui est donc lancée et qui est centrée sur ces marges urbaines, donc les quartiers politiques de la ville, et qui pose la question du levier d'action qui est celui d'utiliser la différenciation comme instrument de l'égalité, c'est-à-dire rentrer par une politique ciblée en matière de santé sur les quartiers politiques de la ville pour restaurer l'égalité de toutes et tous face à la santé. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce que ça montre, c'est l'enjeu qu'il y a à désectoriser les politiques de santé, puisque cette expérimentation, elle est menée sous la double houlette du ministère de la Santé et à l'époque du secrétariat d'État à la politique de la ville. Et elle est mise en œuvre par la délégation interministérielle à la pauvreté et à la lutte contre la pauvreté. Et donc dans une dynamique intersectorielle et pas uniquement ministère de la Santé en l'occurrence. Dynamique intersectorielle qui semble particulièrement importante pour lutter avec force et efficience contre les inégalités sociales de santé. Sauf que cette dynamique intersectorielle ne caractérise pas du tout les cultures administratives en France, notamment en matière de santé. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on est peut-être à un virage multiple de l'organisation des soins, avec un recentrage sur les territoires, avec un recentrage sur une offre qui ne serait pas que libérale, mais qui serait là salariée, et avec l'idée de désautoriser ces politiques de santé. On n'en est pas, loin de là, aux propositions, les plus offensives des post-it. Il n'y a aucune stigmatisation de l'offensive dans mes propos, mais on est en droit de se demander s'il ne faudrait pas en arriver là pour être sous une forme plus rapide et volontariste de transformation d'un système de santé qui, s'il reste basé sur la liberté d'installation, ne pourra que continuer à maintenir ses inégalités. Merci de votre attention.
Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à consulter notre site professionbanlieue.org pour toute information sur l'ensemble de nos actions. Nous vous invitons également à adhérer pour soutenir notre association. À bientôt pour les podcasts de Profession Banlieue.